Oui. Bon. Qu'est-ce que vous voulez savoir exactement?
C'est très simple, enfin, je vous pose des questions comme ça, et puis,
Oui.
bon, si ça ne vous intéresse pas, vous passez, si
Oui,
vous...
oui.
Vous êtes orléanais?
Non, je suis parisien et je suis à Orléans depuis 2 ans.
Enfin, et comment ça s'est fait?
Ah ben, je travaille dans une entreprise nationale de travaux publics. Je vais arrêter.
Non,
Non, ça marche pas. Allô?
mais là, vous travaillez à Paris.
Travaille dans une entreprise nationale de travaux publics qui a des directions régionales dans toute la France. Alors, on est susceptible de changer de région, soit parce qu'il manque un directeur régional ou il y en a un à remplacer, ou pour un tas de raisons d'organisation intérieure d'entreprise. Alors, avant, je travaillais à Lille, et puis on m'a demandé de venir à Orléans.
Alors, qu'est-ce que vous pensez d'Orléans et des Orléanais?
Ah, ce que je pense des Orléans, des Orléanais.
Vous qui êtes un peu extérieur, enfin.
Eh bien, c'est un cercle assez fermé. On parle beaucoup de Lyon en France, on en a beaucoup parlé, que les Lyonnais constituent un cercle très fermé. Je crois qu'à Orléans aussi. Il est très difficile de pénétrer chez les Orléanais. On vit un peu à l'extérieur de la vie active de la région. Mais Orléans étant très près de Paris, il y a eu un gros apport de gens d'extérieur, et maintenant, si vous voulez, on sent beaucoup moins cet isolement qu'il pouvait y avoir il y a une dizaine d'années, par exemple. Il y a énormément de Parisiens qui sont venus à Orléans. Et on reforme un nouveau cercle d'Orléanais qui en fait ne sont pas des Orléanais, qui sont des gens qui viennent de Paris en grande majorité ou d'autres régions de France. Mais on se réunit très peu avec des Orléanais de souche. Et beaucoup plus avec des gens comme moi sont venus de l'extérieur. Alors,
Alors,
je
il y aurait
pense
plutôt
pas.
deux groupes,
Il y aurait
enfin.
plutôt 2 groupes maintenant.
Est-ce que les différences sociales, enfin, vous paraissent importantes à rien?
Or, les différences sociales sont, je crois, les mêmes partout en France. Vous savez, ça dépend d'ailleurs sur quels critères on veut se baser, si c'est l'argent, si c'est la situation. Je crois que c'est un peu semblable partout en France. Mais même à situation égale, on aura des difficultés à s'intégrer dans un cercle orléanais.
Ça tient à quoi, enfin?
Bah, ça tient à quoi? Je crois que ça tient aux gens de la région d'Orléans qui ont toujours fui les apports extérieurs. D'ailleurs, Orléans est une ville qui ne s'est pas tellement développée, d'une part parce qu'elle était près de Paris, et d'autre part parce que les gens, je crois, les gens d'ici, les Orléanais d'origine, ont voulu garder une certaine autonomie, ont refusé l'apport extérieur. Orléans est une ville qui ne s'est pas tellement, tellement développée. D'ailleurs, je crois qu'ils ont eu pendant très longtemps, ils ont refusé les grands axes routiers, l'autoroute. Je crois que ça leur a fait un tort considérable. D'un autre côté, étant près de Paris, les gens n'ont pas pensé avec un esprit régional. Ils étaient beaucoup trop près de la capitale. Alors, ils allaient directement à Paris pour sortir, pour s'amuser, pour un tas de relations. On allait directement à Paris. Je crois que la région centre, enfin peut-être pas la région centre, la région d'Orléans, parce que Blois était quand même un peu différent et plus loin de Paris. Orléans a souffert de sa proximité de Paris.
Et là, entre ces deux groupes dont vous parliez tout à l'heure, est-ce qu'il y a une différence de statut social?
Au statut social, non. Disons que les gens de l'extérieur, en général, comme moi, qui me considère comme quelqu'un de l'extérieur, sont des gens qui ont une situation sociale qui, en général, est due à des entreprises nationales, tandis que les gens d'Orléans, qui ont de bonnes situations sociales, sont des gens qui ont des situations intéressantes dans des vieilles maisons orléanaises ou dans des industries spécifiquement orléanaises. La plupart des gens que je connais sont des directeurs d'entreprises ou de sociétés dont le siège social est à Paris. Alors que chez les Orléanais, au contraire, ce sont des entreprises locales. Même cette petite différence.
Est-ce que par exemple dans une région urbaine ou autre chose, culture, est-ce que vous pouvez reconnaître, par exemple, le style de la bourgeoisie orléanaise, enfin.
Peut-être, en général, ce sont des gens qui sont moins détendus que nous. Peut-être pas, ils s'extériorisent beaucoup moins. D'ailleurs, dans les réunions mondaines, je pense qu'il y a les réunions mondaines des Orléanais et les autres.
Ah bon, c'est nettement séparé.
Un peu séparé, oui. Un peu séparé. Enfin, en ce qui me concerne personnellement, je vois surtout des gens extérieurs à Orléans. Et qui ne pensent pas et qui ne vivent pas à Orléans, d'ailleurs. Ils vivent sur leurs souvenirs. Et qui regrettent toujours, non pas d'être venus à Orléans, mais ils regrettent les moments où ils vivaient ailleurs. Ils regrettent Paris, ils regrettent le Nord, ils regrettent l'Est. C'est assez curieux. Il y a très peu qui sont vraiment intégrés profondément à la vie sociale d'Orléans. Ils sont toujours un peu en marge.
Mais dans le haut du pavé, enfin, Orléans, c'est quoi exactement? Est-ce que c'est une ancienne aristocratie?
Il y a une ancienne aristocratie, oui. Il y a les grosses industries orléanaises qui sont. Il y a les fabriques à Mingourt, il y a Gravier, enfin, ce sont des usines qui sont là qui existent depuis très très longtemps. D'ailleurs, on a très peu de contact avec eux. Moi, j'ai du contact avec ces gens-là uniquement sur le plan professionnel, mais ça ne déborde jamais. Absolument pas. Alors, il y a également l'aristocratie des Beaucerons, les paysans Beaucerons, alors là, qui est extrêmement fermé, qu'on ne voit jamais.
Ah bon,
ils vivent absolument en vase clos. J'en connais, ils en sont très bien, ils sont très sympathiques, mais ça ne déborde pas de cadre professionnel, absolument pas. En dehors du travail, on n'a absolument aucun contact.
Et c'est en quoi vous-même vous plaisez à Orléans?
Je me plais à Orléans. Moi aussi, je vis sur mes vieux souvenirs. Je me plaisais peut-être plus ailleurs. Je ne me déplais pas à Orléans. Enfin, je préférais le nord de la France. Oui. Ah oui. J'ai vécu à Lille, je préférais. L'ambiance dans le nord était plus sympathique.
Je suis originaire du nord également.
Oui, bien. J'ai vécu dans le Nord, bien qu'étant d'origine méditerranéenne, j'ai vécu dans le Nord et je veux dire que je m'y trouvais très bien. Je ne suis pas parti de mon plein gré, je suis parti parce qu'on m'a envoyé à Orléans. Tandis qu'à Orléans, il n'y a pas cette ambiance que l'on trouve dans le Nord. C'est très fermé, c'est même assez triste. Oh oui, c'est assez triste. Orléans, la nuit, c'est pas très drôle. Non. À 8h30 du soir, il n'y a plus personne dans les rues. Il n'y a rien d'ailleurs à Orléans. Puisqu'on parle beaucoup des loisirs, on peut dire qu'à Orléans, c'est assez réduit. Hein. Il n'y a pas cette activité que l'on rencontre dans les villes de province, disons, d'une importance équivalente. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont se distraire à Paris. C'est tellement facile. On vit un peu en marge d'Orléans. Moi, j'ai mon travail. En fait, c'est la seule chose qui m'accroche à Orléans.
Tout à l'heure, on parlait des milieux sociaux d'Orléans. Est-ce que, d'une façon générale, vous disiez que ça ressemblait à ce qui se passait dans la reste de la France, mais alors, d'une façon générale, est-ce que vous avez l'impression que les différences sociales ont tendance à diminuer?
Vous savez, en général, je crois que les barrières sociales s'abaissent de plus en plus. Elles s'abaisseront à Orléans comme ailleurs. Hein. Je pense que de ce côté-là, il n'y a pas vraiment de séparation. Il y a des séparations qui sont dues aux différences de situation sociale, mais enfin, c'est pas tellement, tellement marquant. Hein. J'ai connu des pays où c'était quand même beaucoup plus tranchant.
Vous verriez combien de groupes, par exemple, à Orléans?
Je voulais dire que je ne sors pas beaucoup en dehors de mes relations professionnelles, je ne sors pas tellement, alors je ne vois pas beaucoup de choses. Je suis comme tous les gens d'ici. Il m'arrive très souvent d'aller à Paris, où j'ai des amis, j'ai gardé mes amis parisiens, puisqu'on est à Paris en une heure et demie de voiture. C'est très facile de retrouver ces vieux amis. Et je n'ai pas eu tellement de, j'ai pas fait tellement d'amis à Orléans, pas connu, je connais pas tellement de monde.
Et vous avez commencé à parler un peu de vos loisirs. Est-ce que vous pourriez décrire un peu vos loisirs à Orléans?
Mes loisirs, ou à Paris, enfin. Mais mes loisirs à Orléans sont très réduits parce que j'ai une activité assez intense. Il m'arrive même de travailler le dimanche.
Alors, ah bon?
En principe, tous les dimanches matin, je viens au bureau pour être tranquille, pour faire mes papiers tranquillement. Alors, mes loisirs, lorsqu'il fait beau, c'est la promenade sur le bord de la Loire. J'ai commencé à visiter les châteaux que je n'avais jamais vus de ma vie. Je les visite un par un. En dehors des promenades, il n'y a rien. Comme je ne vais pas au cinéma, de temps en temps, je vois quelques amis, mais c'est quand même assez rare. C'est très très rare. Et lui, on se rencontre le soir pour boire un pot, quelquefois déjeuner, le dîner, c'est assez rare.
Le soir, par
exemple. La civilisation des loisirs n'est pas encore arrivée à Orléans. Non, absolument pas. En général, je travaille le dimanche matin, et j'ai à peu près le dimanche après-midi où je suis vraiment tranquille.
Et le soir pendant la semaine?
Oh ben, le soir pendant la semaine, c'est je rentre chez moi, il est 8h30, 9h. Non, je n'ai pas beaucoup le temps de penser au loisir le soir. Ça, c'est la vie des chefs d'entreprise, vous savez.
Dimanche dernier, par exemple, qu'est-ce que vous avez fait?
Dimanche dernier, je n'ai rien fait. Dimanche dernier, j'ai travaillé jusqu'à 11h30. Et l'après-midi, je suis resté chez moi, j'ai rangé mes livres, j'ai écrit quelques... je suis en train d'écrire un petit article technique, alors j'ai passé 2-3 heures à compulser les documents, et lundi, je suis allé à Paris.
Pour affaires ou...
Non, chez moi, j'ai toujours un appartement à Paris, je vais aller voir des amis.
Est-ce que vous pourriez parler un peu de votre travail? Qu'est-ce que vous faites exactement? Éventuellement, est-ce que vous pouvez décrire une journée de travail?
Une journée de travail? Oui, si vous voulez. Une journée de travail, ça commence le matin à 7h, 7h30. Alors, 7h, 7h30, c'est l'heure où on met en route tout le matériel et le personnel qui part sur les chantiers. Jusqu'à 8h30, je vais faire mon tour à l'usine, à l'atelier, parce qu'on a un atelier de réparation important qui nous sert à réparer du matériel qui vient d'autres régions de France. Je regarde les gilets d'émulsion, si tout va bien, les postes d'enrobage. 8h30, le courrier, dépouillement du courrier jusqu'à 9h30. Et puis après, c'est très varié. Il y a des coups de téléphone, il y a des études à faire, il y a des clients à aller voir, il y a des chantiers également à visiter. Une ou deux fois par semaine, je vais dans la région de Montargis parce qu'on a un centre de travaux également là-bas. Je passe ma journée entre Montargis et la Charité-sur-Loire. Le soir à 6h, c'est le courrier, la signature du courrier, jusqu'à 6h30. Après 6h30, on parle de la journée et surtout on prévoit la journée du lendemain. Et puis en France, comme les gens sont en général assez mal organisés, quand ils ont besoin de quelque chose, ils vous téléphonent à 7h du soir. C'est pour ça que dans toutes les entreprises, tous les gens sont bloqués jusqu'à 7h30, 8h. Les gens n'arrivent pas à se discipliner et à arrêter le travail à une heure fixe. Alors quelquefois, ça dure jusqu'à 7h, 8h et même plus. Tout ça parce que nous sommes un peuple foncièrement mal organisé. Et comme dans toutes les entreprises, les gens sont également mal organisés, si vous les quittez à 7h, bien, de toute façon, vous allez rater un tas d'affaires où les gens ne pourront pas vous toucher parce qu'ils commencent à vous téléphoner après 7h. Parce qu'eux sont tranquilles.
Et ça vous plaît comme travail, enfin...
Ah oui, ben, bien sûr, autrement je ne le ferais pas. C'est un travail passionnant parce que c'est une invention. Tous les jours, il faut inventer quelque chose. Lorsque vous prenez un chantier, vous partez sur des plans, vous faites une étude, ce qu'on appelle une étude commerciale, qui vous permet de déterminer les prix. Parce que vous avez déterminé ces prix, et ça part en adjudication, on prend en général le moins 10 ans, et c'est là que les difficultés commencent, parce qu'en général, quand on a fait l'étude commerciale, on n'a pas fait l'étude technique, parce qu'on n'a pas le temps. Alors, on fait une étude technique pour un chantier, et alors là, c'est là la grande aventure. C'est toujours quelque chose de nouveau. Puis il y a un tas de facteurs qui interviennent, le temps en général, et puis également, il y a l'interférence d'un chantier sur l'autre, est-ce qu'on a le matériel, est-ce qu'on ne l'a pas, celui-ci, on va le mettre là, on va le reprendre, etc. C'est extrêmement passionnant.
C'est
très très passionnant, parce que vraiment, il y a un tas d'impondérables et on ne peut pas dire sur tel chantier, j'ai réalisé tel chantier dans telle condition, celui-ci étant le même, je dois donc le réaliser dans les mêmes conditions, c'est absolument pas vrai. Ça dépend de tellement de choses. Alors, c'est ça qui est passionnant dans ce métier, c'est que tout chantier nouveau est une nouvelle aventure.
C'est le côté création et risque, enfin, qui nous...
Ah, il y a les deux. Il y a les deux. Et évidemment, il y a toujours une part de risque, mais enfin, il y a également le côté création qui est important, qui apporte des grandes satisfactions.
Quelles sont les qualités pour vous d'un entrepreneur, enfin, qualités essentielles?
Mais il doit avoir certainement beaucoup de qualités. Un entrepreneur, c'est un monsieur qui doit être je parle à notre échelon, il doit être un bon commerçant, un très bon technicien, un bon comptable, un bon gestionnaire. Ça demande énormément de qualités.
Qu'est-ce que vous pensez des entrepreneurs d'Orléans?
Alors, les entrepreneurs d'Orléans sont aussi valables que nous. Nous sommes, si vous voulez, la plus grosse maison de travaux publics routiers de la région. Enfin, je suis persuadé que les autres entrepreneurs ont des qualités certainement équivalentes, sinon supérieures aux nôtres. Une qualité d'un individu ne sont pas fonction de l'entreprise qu'il dirige. Hein. Il y a des gens très très bien et très valables qui connaissent parfaitement bien leur affaire. Nous, étant grosse société à l'échelon national, si vous voulez, on a un appui technique qu'eux n'ont pas, justement, ils sont handicapés. Parce que nous, quelquefois, nous avons des problèmes difficiles, on a toujours recours à le siège social. Où l'avantage, c'est que lorsqu'on a une affaire à traiter, si elle n'a jamais été traitée dans la région d'Orléans, il y a des chances pour que des gens de Bordeaux, de Metz ou de Douai aient déjà eu des problèmes similaires. On peut toujours demander des renseignements. Et c'est un avantage de l'entreprise nationale.
Vous n'aviez pas fait ce métier-là, qu'est-ce que vous auriez aimé faire?
Je n'aurais rien fait, je n'ai pas... Je fais ce métier-là parce qu'il me plaît, mais je n'aime pas travailler. Si j'avais pu ne rien faire, je serais resté à rien faire.
Ah bon? Enfin, si vous avez dû choisir un autre métier.
Je ne sais pas. J'ai choisi ce métier, je n'ai aucun problème. Je ne me suis pas posé de questions, j'ai choisi ce métier-là parce qu'il me plaisait.
Votre femme travaille?
Non, ma femme ne travaille pas, non. Elle a travaillé parce que ça lui plaisait. Elle est docteur en droit, alors de temps en temps, elle aime bien se plonger dans la jurisprudence. Elle a travaillé quelques temps, mais uniquement pour le plaisir. Ça lui plaisait. Maintenant, elle a des enfants, elle a le temps de travailler. Et puis, pour travailler, je crois qu'il ne faut pas arrêter. Si on veut avoir un bon rendement, parce que maintenant il n'y a que ça qui compte, si on est au courant surtout de toutes les affaires, il ne faut pas arrêter. Maintenant je pense qu'elle aurait des difficultés pour se remettre au travail, tout au moins à un échelon qui correspond à son degré d'instruction.
Et vous personnellement, qu'est-ce que vous pensez des femmes mariées qui travaillent? Enfin, vous trouvez que c'est une bonne chose?
Que les femmes travaillent?
Oui. Que les femmes mariées.
Alors, que les femmes mariées travaillent? Oui. Ah! Ça dépend de beaucoup de choses. D'abord, il y a beaucoup de femmes mariées qui travaillent parce qu'ils ont besoin de travailler, parce que le mari ne gagne pas assez, parce qu'ils ont des besoins qui dépassent les possibilités du mari. Donc la femme travaille, c'est absolument nécessaire. A priori, je ne suis pas contre. Je trouve que la femme a sa place exactement comme l'homme dans le milieu de coordination entre l'homme et une femme. Il n'y a aucune raison que la femme soit clouée chez elle, soit la bonne du mari. La plupart du temps, c'est ça. Ça c'est moral. C'est absolument immoral que, en fait, la femme devient la servante du mari. Alors, vous avez une fille qui a fait des études assez, même si elle n'a pas fait d'études d'ailleurs, enfin, elle devient, non pas l'esclave, mais enfin la servante du mari. Ça, par contre, pour le changer, ça me semble très difficile. Mais là, il y a quelque chose d'immoral, mais je vois pas pourquoi, c'est toujours la femme qui est asservie aux travaux les plus pénibles. Parce qu'en fait, pour un homme, travailler, c'est pas difficile, c'est pas compliqué, c'est certainement beaucoup moins pénible que le travail d'une femme.
Qu'est-ce que vous allez faire?
La femme qui travaille, là, la femme qui travaille énormément de courage et beaucoup de mérite, parce qu'elle travaille, et ensuite elle travaille chez elle avec une deuxième journée qui est certainement quelquefois plus pénible que la première. Donc de ce côté-là, je suis contre le travail de la femme, ou alors il faudrait qu'elle puisse travailler comme le mari, faire sa journée, et ensuite avoir l'esprit libéré, et pouvoir s'adonner au loisir. Parce que la femme qui a travaillé toute la journée, comme j'ai des filles ici qui travaillent, mais je suis persuadé, alors le soir on va faire les commissions, on fait la cuisine, on fait le ménage, c'est vraiment bien possible. Alors là, je suis contre le travail de la femme, mais je suis contre. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution, parce qu'il faut bien que les travaux ménagers se fassent. Actuellement, on n'a pas d'autre solution. Mais je trouve idiot que la femme soit asservie et soit obligée de faire tous les travaux ménagers.
Est-ce qu'il y a des professions qui vous semblent plus spécialement féminines, ou bien est-ce que vous trouvez que...
Ben oui, si vous voulez, les professions, chez nous par exemple, je vois très peu une femme conducteur d'engin, qui est quand même un travail très dur. Mais disons chimiquement, ce sont des problèmes physiques que l'on rencontre également chez les hommes. On ne va pas mettre conducteur d'engin, un petit bonhomme mal foutu, c'est exactement pareil. Alors en fait, la discrimination, c'est pas spécialement parce que c'est une femme, c'est parce qu'elle n'a peut-être pas la vigueur physique pour assurer ce travail-là, mais on le trouve également chez les hommes.
Il y a pas des professions qui ne demandent pas une dépense d'effort physique.
Il n'y a aucune discrimination à faire entre un homme et une femme.
Vous pensez qu'une femme pourrait faire n'importe quel métier?
N'importe quel métier, et elle peut réussir aussi bien et même mieux que l'homme, très souvent.
Pourquoi?
En général, bah parce que je crois qu'en général, les femmes ont plus de volonté. Et elles ont en fait autant de possibilités. Certainement. Je crois que les femmes n'ont plus de volonté. Quand elles veulent quelque chose, elles ne lâchent pas prise.
Qu'est-ce que vous avez fait pendant les vacances d'été?
J'ai travaillé.
Vous avez travaillé?
Je n'ai pas pris une pomme.
Et pour les vacances prochaines?
Je ne sais pas. Je ne sais pas.
Il y a longtemps que vous n'avez pas pris de vacances d'été?
Depuis 2 ans.
Depuis 2 ans.
Je pense que cette année j'en prendrai.
Vous n'avez pas de projet encore?
Non, nous ne faisons jamais de projet de vacances parce que chaque fois que nous en avons fait, je n'ai jamais pu les réaliser. Alors ma femme part toute seule. Alors en général, on s'en va une partie des vacances en Hollande, pays d'origine de ma femme, et puis l'autre partie. Un mois au bord de la mer ou la campagne, ça dépend. Mais enfin, on ne fait pas de projet à longue échéance.
En général, c'est vous, votre femme, qui s'occupe de l'organisation des vacances?
C'est ma femme qui s'occupe de toute organisation. Quelle qu'elle soit, à partir du moment où c'est une organisation purement qui ne dépasse pas le cadre familial, c'est elle qui s'occupe de tout, qui organise.
Si vous aviez...
Elle me demande mon avis, pour la forme.
Enfin, c'est elle qui décide aussi, par exemple, de l'endroit où vous passerez vos vacances.
Oui. Oui. Oh, elle décide, c'est-à-dire qu'on en parle, et puis on... Je suis assez démocrate. Il y a une raison que ce soit moi qui décide. Ouais. Si j'ai une idée, ce qui est très rare... bon, là...
Si vous aviez 2 heures de temps libre supplémentaire par jour, qu'est-ce que vous feriez?
Je lirais des revues techniques, tout ça, que je n'ai à moitié lu, ou même pas lu du tout. Mais technique, c'est important, dans tous les métiers. Et si on veut être au courant de bien posséder son métier, on doit lire beaucoup. Vraiment, parce qu'on ne peut pas, autrement on n'arrive pas à suivre. sais qu'on parle beaucoup de recyclage, beaucoup d'un tas de choses, mais enfin, on peut se recycler tout seul déjà, pas mal, en grande partie. Malheureusement, on n'a pas le temps. Et si les recyclages sont devenus à l'ordre du jour, c'est parce que justement les gens n'ont pas le temps d'étudier soi-même, non pas d'étudier, mais enfin de lire des revues spécialisées, ils n'ont pas le temps, pas le courage, parce qu'ils sont fatigués. Alors à la fin de la journée, ils en ont marre, ils sortiront par rive technique. Avec un recyclage, on est obligé d'y aller, alors on suit. Et si j'avais le temps, je l'aurais beaucoup plus.
Vous avez des enfants?
Oui.
Et qu'est-ce que, enfin, à votre avis, qu'est-ce que l'école devrait apprendre avant tous aux enfants?
Ce que l'école devrait apprendre aux enfants, ça, on ne sait pas trop ce que l'école devrait apprendre aux enfants, parce que je crois que c'est un travail de professeur, c'est pas un travail de parents. Les parents ont des idées qui sont complètement fausses, parce qu'ils ne suivent pas l'évolution, comme les professeurs peuvent la suivre. Je crois qu'ils doivent leur apprendre, évidemment, les notions élémentaires, ils doivent leur apprendre à compter, à bien s'exprimer, à calculer, un tas de choses. Mais je crois qu'ils devraient leur apprendre que l'école est surtout un début, mais ce n'est pas une fin en soi. Quand on sort de l'école, on ne sait rien du tout. Et que le combat commence à la sortie de l'école.
Est-ce qu'il y a des matières qui vous paraissent inutiles?
Absolument pas. Il n'y a aucune matière. Je ne pense pas qu'il y ait des matières inutiles. Actuellement, on a beaucoup critiqué le grec et le latin. Je pense qu'il est absolument nécessaire. Il faut garder. D'abord parce qu'il y a des enfants qui sont... Pour un technicien, connaître le grec et le latin, ce n'est pas tellement important. Ça peut être inutile en ce sens que s'il étudie le latin, il n'apprendra pas autre chose qui peut lui être plus utile. Mais il ne faut pas supprimer le grec et le latin, parce qu'il y a des enfants qui, au contraire, peuvent s'y intéresser. Il faut le garder. Je ne pense pas qu'il y a aucune matière qui est inutile, absolument pas.
Et pour le latin, par exemple, enfin, pour quelqu'un qui n'est pas destiné à devenir un technicien, à votre avis, enfin, en quoi c'est utile?
C'est utile parce que c'est une gymnastique de l'esprit. Et je crois que les gens qui ont fait du latin s'expriment beaucoup mieux que les autres. Ils pensent, sont des littéraires en général, s'y accrochent. Il y a un tas de gens qui ont fait du latin, qui ont tout oublié, ça ne les a absolument pas imprégnés. Mais enfin, les gens qui sont imprégnés le latin, je crois que ce sont des gens qui ont plus de facilité pour s'exprimer, pour comprendre certains problèmes qui ne sont pas des problèmes techniques. Donc, j'ai mon fils qui a 12 ou 13 ans qui fait du latin, et lorsque je vois ses lettres, je trouve qu'à son âge, je ne m'exprimais pas si bien que lui. Maintenant, il est évident que c'est un cancre en mathématiques. Bon, de toute façon, si c'est un cancre en mathématiques, s'il ne fera jamais rien en mathématiques, c'est pas la peine de lui en faire faire. Là, ce serait vraiment inutile pour un individu donné, mais non pas inutile en général. C'est toujours utile. Maintenant, je trouve idiot de vouloir faire faire des mathématiques à un enfant qui n'a absolument pas doué pour ça. Ça ne sert strictement à rien. Mais il n'y a pas de matière inutile, je ne pense pas.
Est-ce qu'il y a des matières qui vous semblent ne pas être suffisamment développées à l'heure actuelle? Est-ce qu'il y a des matières qui, d'après vous, sont trop négligées dans l'enseignement actuel?
Je dois dire que je ne peux pas répondre à cette question parce que je ne suis pas tellement au courant des études que l'on fait actuellement dans les lycées secondaires ou l'université. Il y a eu beaucoup de changements. Je ne pense pas, vous savez, ce que disait Herriot, je crois, il disait quand on fait les études secondaires, ce qu'il disait exactement. La culture, c'est ce qui reste lorsqu'on a tout oublié, c'est ça, hein? Je crois qu'il avait raison. On oublie un tas de choses, il vous reste quand même une certaine base qui, de toute façon, vous est utile. Les matières négligées dans l'enseignement n'ont pas tellement d'importance. Ce qu'il faut, c'est que les enfants aient l'esprit ouvert. Et après, ils l'apprendront d'eux-mêmes. Ils pourront l'apprendre. Je crois que l'important, c'est d'ouvrir l'esprit. On ne peut pas tout apprendre, on ne peut pas apprendre tout. Ils passeraient leur vie à l'université et ça ne donnerait pas forcément de bons résultats d'ailleurs. L'esprit, il faut leur ouvrir l'esprit de façon à ce que si vraiment, s'il y a quelque chose qui peut les intéresser, ils aient la possibilité de s'y intéresser plus tard. Qu'ils ne ratent pas quelque chose par ignorance. N'est-ce pas, dans une pipe, à 30 ou 35 ans, et si j'avais su ça, je me serais orienté dans cette branche, mais je l'ignorais totalement. On n'en avait pas parlé.
Vous, personnellement, enfin pour vos enfants, dans quelle matière vous auriez aimé qu'ils soient forts? Vous avez une...
Aucune, ça dépendra uniquement d'eux. Moi, je n'ai absolument aucun préjugé. Si mon fils devient littéraire, je serai aussi satisfait s'il est un technicien. Ce qui fait, c'est qu'il réussisse dans ce qu'il fait. Mais je ne vois pas vouloir faire un technicien ou un littéraire d'un enfant qu'on ne connaît pas, on ne connaît pas ses réactions. Lui-même, d'ailleurs, ne les connaît pas tellement. Je crois qu'il faut suivre les aptitudes des enfants. S'il est apte à embrasser une carrière, il faut lui donner toutes les possibilités, il faut l'aider, mais il ne faut pas le forcer à entreprendre une carrière pour laquelle il n'est pas fait. C'est complètement idiot.
Mais vous n'avez pas de préférence personnelle en
fait? Absolument aucune. Alors, absolument pas. Absolument pas, ça dépendra uniquement de lui. S'il réussit bien dans des classes littéraires ou en philo, moi ça ne me dérange absolument pas. Je ne vais absolument pas en faire un technicien. S'il réussit comme technicien, tant mieux. Mais je ne serais pas plus heureux parce qu'il aura réussi comme technicien. Pas. Et s'il est bon à rien, eh bien tant pis pour, tant pis, il sera bon à rien. S'il ne peut pas continuer ses études, il va prendre un travail manuel. S'il fait un bon ouvrier, ça sera toujours mieux que de faire un mauvais ingénieur ou un raté. S'il ne réussit absolument pas dans ses études, c'est qu'il n'est pas doué pour son temps.
Qu'est-ce que vous pensez des parents qui poussent leurs enfants malgré leurs échecs
Qui poussent leurs enfants
malgré ceci
Je crois que c'est une erreur.
Vous pensez que c'est une erreur?
Je crois que c'est une erreur. En général, ça n'a certainement pas de bons résultats. Par contre, je crois qu'il ne faut pas abandonner trop vite parce que il y a des enfants qui ont une maturité à 12, 13, 14 ans, d'autres à 17 ou 18 ans, mais ça c'est certainement une erreur d'arrêter tout effort. Mais il ne faut pas non plus les pousser absolument à vouloir qu'ils réussissent là où ils sont incapables de réussir. Je crois que ce que les parents ne voient pas, c'est que en fait quand ils poussent les enfants à contresens, c'est en fait parce qu'ils sont déçus eux-mêmes et que si l'enfant réussit, c'est leur satisfaction à eux. Et en fait, l'intérêt de l'enfant est quelquefois au second plan. Je sais bien que si mon fils est un raté, je ne serais pas heureux, évidemment. Bien sûr. Enfin, il ne faut pas... Il ne faut pas non plus penser uniquement qu'on est un grand homme parce que ses enfants ont réussi, mais ça n'a absolument rien à voir. Si mon fils réussit, c'est grâce à lui, c'est pas grâce à moi. Il faut l'aider au maximum. Il ne faut pas lui faire faire des études qu'il est incapable d'entreprendre, absolument capable. Seulement, il y a autre chose, c'est que les parents doivent demander l'avis des professeurs qui connaissent beaucoup mieux les enfants que nous. En fait, nous, on ne connaît pas les enfants à partir d'un certain âge, on ne les connaît plus parce qu'on n'a pas le temps de s'en occuper, on ne connaît pas leur réaction. En fait. Les parents connaissent très mal leurs enfants.
Et vous en remettriez à l'avis des professeurs plutôt?
Oui, je m'en remettrai à l'avis des professeurs, je pense, en grande partie. Si le professeur de français dit votre fils est un camp, que ne croit jamais rien en français, c'est une véritable cloche, c'est un bon à rien. Je crois que j'accepterai que mon fils abandonne ses études, dans cette branche tout au moins, puisque je pense que le professeur est quand même capable de déceler au bout d'un certain temps si un enfant peut ou non réussir.
Et pour les orienter, enfin pour l'orienter, soit vers les branches scientifiques, soit vers les branches littéraires.
Je vois que c'est là que les lycées ont quand même un gros travail à faire, c'est à eux de le faire. C'est-à-dire que les enfants ont des idées tordues. Les parents, je veux dire, ont des idées tordues. Ils ont les idées qu'ils connaissent, sinon pas. Tandis que les professeurs ont quand même des idées beaucoup plus larges que nous. Ils savent beaucoup mieux l'orientation qu'on peut donner à un enfant. Le père a rêvé un jour d'être ingénieur, il voudrait que son fils soit ingénieur. Il a rêvé d'être avocat, il voudrait que son fils soit avocat. Puis en général, ça ne va pas plus loin.
Et l'enfant lui-même?
L'enfant lui-même, oui, c'est important. Je crois que là, c'est important. Mais il n'y a pas tellement d'enfants, je crois, qui, très jeunes, désirent embrasser une carrière. Il y en a. Et en général, ils réussissent très bien. Moi, les miens n'ont aucune idée. Je trouve ça normal. Il y a très peu d'enfants qui, à 12-13 ans, savent exactement ce qu'ils veulent faire ou ce qu'ils voudraient faire plus tard. Je crois que même le chauffeur de locomotive, ça n'existe même plus. Je crois que les enfants qui, très jeunes, savent ce qu'ils voudraient faire vraiment au fond d'eux-mêmes, je crois que ceux-là réussissent. Puis les autres, eh bien, ça dépend des circonstances, ça dépend d'un tas de choses.
Et comment vous expliquez qu'il y ait des enfants qui réussissent? Oui, pardon.
Puis pour moi, les parents, le rôle des parents, c'est d'être un exemple. Mais pas tellement un éducateur, je pense pas. Pour toi, tes parents, enfin, au sens complet du mot. Les parents doivent se limiter à donner un exemple à leurs enfants. Oui, le rôle des parents, moi je me vois pas très bien en éducateur, absolument pas.
Qu'est-ce que exactement un exemple, enfin, exemple de quel point de vue?
Point de vue moral surtout. Que les enfants aient confiance en leurs parents. C'est ça qui est très important.
Et comment vous expliquez qu'il y a des enfants qui réussissent à l'école et d'autres pas?
Ah, alors là, comment se fait-il qu'il y a des grands et des petits? Enfin, c'est un peu ça. Il y a des enfants qui sont... D'abord, il y a des enfants qui sont plus intelligents que d'autres, qui sont plus réceptifs, indiscutablement. Les enfants, 40 enfants mis dans une classe, il y en a qui réussiront, qui vont assimiler très bien, et d'autres qui n'assimileront pas. Ça ne veut pas dire que ceux qui n'assimilent pas sont des imbéciles, mais enfin, il faut bien faire une sélection quand même, d'une façon ou d'une autre. En général, ceux qui réussissent bien à l'école, on peut admettre qu'ils réussissent quand même assez bien dans la vie. Je crois quand même qu'il y a certainement une relation. Il y a les exceptions. Le cancre de l'école qui devient un PDG extraordinaire, bien sûr, mais enfin, ce sont quand même des exceptions. Il y a les enfants réussissent bien à l'école, d'autres réussissent mal. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas, je n'en sais rien. C'est une question d'intelligence. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Enfin, pour moi, c'est une question d'intelligence, de milieu, d'ambiance, de choses qui interviennent. Peut-être, mais je crois aussi une question d'intelligence. Il y a des gens intelligents, d'autres qui ne le sont pas, il n'y a rien à faire.
De milieu, qu'est-ce que vous voulez dire?
De milieu, le milieu familial, je crois que le milieu familial a une grande importance. L'enfant dont les parents ont un certain degré d'éducation ou d'évolution est peut-être mieux placé que celui dont les parents n'ont pas fait des études suffisantes. Donc ça peut quand même, dans une certaine mesure, ça peut intervenir. Mais celui qui n'est pas intelligent, de toute façon, il ne réussira pas. Mais disons que le milieu familial, quand même, je crois, peut être favorable au développement d'un enfant, et certainement d'ailleurs.
Par quel biais, enfin, par quel, enfin, comment vous voyez la relation entre le milieu familial et puis le développement de...
Eh bien, je crois que c'est très flou, ce sont les conversations des parents, ce sont la lecture des parents, ce sont les réponses que les parents peuvent donner les réponses qu'ils peuvent donner à certaines questions des enfants sont les façons de résoudre certains problèmes. Puis alors, c'est également de voir comment les parents, la façon dont ils travaillent, ce qu'ils font. C'est quand même important. Je pense que l'enfant d'un manœuvre est plus mal placé que l'enfant d'un avocat ou d'un médecin. Un milieu certainement plus défavorable. Les enfants, si vous voulez, sentent quand même l'intelligence des parents, ils doivent le sentir. Un fils de médecin ne comprend pas évidemment ce que son père veut dire, il ne comprend pas évidemment tout ce qui fait l'intelligence de son père, mais il le sent. Il saura très bien voir la différence entre un manœuvre et son père, donc mon père est plus intelligent que... Quelque part, c'est pas l'intelligence, c'est une question d'éducation. On confond trop souvent intelligence et instruction, c'est pas tout à fait la même chose, mais enfin. Donc, le milieu familial est quand même très important. Pas que ça, mais les enfants qui sont bornés, ils sont bornés. Pourquoi, on n'en sait rien, peut-être des raisons d'ailleurs. Je ne suis pas sociologue. Alors, je suis bien incapable de répondre. Enfin, quelquefois, les enfants ne réussissent pas à l'école parce qu'il y a quelquefois un problème qui est tout à fait indépendant. Très souvent, ce sont les problèmes familiaux aussi qui peuvent intervenir, ou la gueule du professeur, ou la façon de présenter les choses. On fait beaucoup d'essais pour enseigner les mathématiques. Là, j'ai vu dernièrement, on a entrepris ce qu'ils appellent les mathématiques modernes. Je ne sais pas ce que ça donne, ce que ça donnera, j'en sais rien. Enfin, bon, disons que c'est une présentation différente d'une science qui reste la même, de toute façon. Alors, il y a certainement des enfants qui seront plus accrochés, qui apprendront mieux avec cette méthode qu'avec une autre. Ça, bien sûr. On n'est pas forcément obtus aux mathématiques, mais quelquefois, on est obtus à la façon de les présenter.
Jusqu'à quel âge, d'après vous, les enfants devraient aller à l'école?
Ben, ils doivent aller à l'école jusqu'à temps qu'ils aient terminé, non pas ce qu'on appelle leurs études, mais qu'ils aient terminé de progresser.
Et est-ce qu'il y aurait un âge minimum pour tout le monde, enfin?
Je pense pas. Je pense pas. Il n'y a pas d'âge minimum. C'est une question de progression. À partir du moment où on ne progresse plus, c'est pas la peine.
Pensez par exemple à quelqu'un qui ne progresserait pas. Il faudrait être retiré de l'école vers 12 ans, 13 ans.
Non, je pense pas. Il faudrait au moins attendre 16 ans.
Il faudrait attendre 16 ans.
Il faudrait au moins attendre 16 ans.
Est-ce que c'est la même chose pour les filles et les garçons?
Je crois que les filles sont, comment dirais-je, apprennent plus vite, plus facilement que les garçons dans les jeunes âges.
Effectivement, c'est de vérifier.
Ah bon?
Oui.
Oui.
Est-ce que vous pensez qu'elles
parce que elles se concentrent beaucoup mieux. Elles ont l'esprit moins dispersé que les garçons. Mmh. C'est pas une question d'intelligence, mais les garçons pensent toujours à tant de choses, ils font tant de blagues. Il y a toujours de grandes aventures, alors que les filles sont plus concentrées sur leur travail. Et même plus tard, même dans la vie d'ailleurs. Le travail que font mes filles ici, il n'y a pas un homme qui pourrait le faire.
Mais bon.
Je pense plus.
Pourquoi? Parce que c'est trop.
Parce qu'elles sont plus aptes à le faire. Peut-être pas ce qu'eux ils font, mais pour faire leur travail de secrétariat, je crois que une femme est certainement beaucoup mieux qu'un homme.
Est-ce que vous pensez qu'une fille devrait faire autant d'études qu'un garçon?
Absolument. D'ailleurs, moi j'ai une fille et un garçon où ils font des études tous les deux, ou l'un des deux, mais celui qui réussira n'est pas forcément le garçon. Le garçon ne fera pas plus d'études que la fille s'il n'est pas plus apte à les faire. Absolument pas. Absolument pas.
Il y a encore en France une division entre ce qu'on appelait l'école libre et l'école laïque. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ah, alors là, c'est des problèmes religieux. Alors là, je pense qu'il faudrait peut-être couper le magnétophone. Là, il y a un problème politique qui intervient, politique et religieux. Je ne suis pas catholique, ma femme non plus. Je dirais que je suis presque contre. En ce qui concerne l'école libre et l'école laïque, je crois que l'école libre, ces derniers temps, est mieux que l'école laïque, dans beaucoup de domaines, parce qu'elle n'a pas les problèmes de l'école laïque. Ses professeurs n'ont pas les mêmes problèmes que les professeurs de l'école laïque, parce qu'ils ont moins de monde. Ils n'ont pas cet embarras locaux qu'on a dans l'école laïque. Alors évidemment, ils se trouvent dans une position favorisée. Au point de vue de l'enseignement, je ne pense pas qu'il soit inférieur, que les maîtres de l'école libre soient inférieurs à ceux de l'école laïque, je ne pense pas, je ne crois pas. Mais je crois qu'ils ont été favorisés à cause de cet embouteillage monstre que l'on a et que l'on connaît encore dans nos lycées et nos universités. Mmh. Alors, non, ils ont été placés en position privilégiée puisque chez eux, il y avait une certaine sélection au départ, donc ils avaient de la place. Et c'est tout. Je ne veux pas dire que je trouve que les professeurs de l'école libre sont plus mauvais que ceux de l'école laïque, absolument pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas, d'ailleurs, il n'y a aucune raison.
Vous avez mis personnellement.
Une tournure d'esprit différente, mais ça peut l'admettre au départ.
Oui. Personnellement, vous avez mis vos enfants dans une école.
Oui, dans une école libre, je les ai mis. Oui. Pendant
pour
un an.
Raison, oui.
Pendant un an. Et ce garçon qui avait des difficultés à l'école laïque a très bien marché à l'école libre. Il avait été mis à la porte de l'école laïque d'ailleurs. Peut-être pas mis à la porte, mais enfin c'était pas loin. Et il a été intégré dans une école laïque, j'ai bien prévenu au départ, le supérieur, en lui disant que j'étais pas catholique et que je ne voulais pas qu'un garçon. Je voulais qu'un garçon aille à l'école laïque libre. Et il n'y avait aucune discrimination à faire pour lui à l'intérieur de l'école. Que ma position vis-à-vis de l'Église catholique n'avait pas à intervenir, que s'il voulait l'envoyer à la messe, il l'envoyait à la messe.
Ah bon?
Ah, absolument pas. D'ailleurs, je trouve complètement idiot que les gens qui ne sont pas catholiques n'apprennent pas le catéchisme à leurs enfants. Ça, je crois que c'est une erreur fondamentale. Pourquoi? Mais parce que les enfants ne connaissent pas. Ils pourront vous dire après, mais vous m'avez pas. Je ne sais même pas ce que c'est que le catholicisme. Je ne sais pas ce qu'est la religion. Pourquoi m'avez-vous empêché de l'apprendre? C'est pas à moi de décider si mes enfants sont catholiques ou pas, c'est à eux. C'est pour ça que je suis contre le baptême. Mes enfants ne sont pas baptisés. S'ils veulent se faire baptiser, ils le feront eux-mêmes. Mm-hmm. Je trouve complètement idiot de les laisser ignorer totalement la religion. Si je ne suis pas catholique, c'est pas parce que j'ignore la religion. Mm-hmm. Absolument pas. Au contraire, je trouve que mon fils doit, et mes enfants doivent savoir peut-être aussi bien et mieux que les autres enfants ce qu'est la religion.
Et vous l'avez mis dans une école libre parce que vous aviez l'impression qu'on s'occuperait mieux de lui
Oui, parce qu'on s'occuperait mieux de lui, non, c'est parce qu'il allait être fichu à la porte. Je ne sais pas ce qu'il avait fait, il ne s'entendait pas avec ça. C'était dans l'école primaire. Alors, l'école primaire, il y a quand même une certaine affinité entre le maître et l'élève, et malheureusement, le maître, vous le gardez toute l'année. Au lycée, vous avez un mauvais professeur, bon, 2 heures, après, vous envoyez un autre, c'est moins grave. Bon, là, ça ne marchait pas du tout avec son professeur, avec son instituteur. C'était pas la peine d'insister. C'était une institutrice, d'ailleurs. De toute façon, il n'aurait jamais rien fait parce qu'elle l'avait pris en grippe et lui avait surtout pris en grippe son institutrice. Bon, c'était pas la peine d'insister. L'année aurait été désastreuse. Je ne dis pas qu'il avait raison, absolument pas, mais enfin, le fait était là. Il avait pris en grippe son institutrice, il ne voulait plus rien faire. On l'a mis dans cette école libre, à Boulogne, et ça a très bien marché. Après, il est retourné à la classe suivante, il est retourné à l'école de la vie, il n'y a plus de problème. Et là, si vous voulez, on a quand même bénéficié de l'école libre, puisqu'il a gagné un an, donc toute son année était fichue. Mm-hmm. Ça s'est très bien passé après.
Et qu'est-ce que vous pensez de la participation des élèves au conseil d'administration?
C'est un problème que j'ignore. Alors, il m'est difficile de penser quelque chose de vraiment valable parce que ce sont des problèmes que j'ignore totalement. Alors ça, je dois dire que je suis étranger. Je pense que j'ai pas le temps d'en occuper. Et si je voulais m'en occuper, je pense qu'il faudrait vraiment s'en occuper à fond. Ça peut être un bien, ça peut être un mal. Ça dépend ce qu'on entend par participation. Je crois que il ne faut pas faire de démagogie. Les enfants sont à l'école. D'abord, il y a plusieurs âges. Il y a les écoles secondaires et l'université. L'université, on a affaire à des gens, à des hommes. On a affaire à des gens de 18-20 ans, quelquefois plus. Ce n'est pas le même problème que pour les lycéens. Je crois que pour les lycéens, moi je pense que c'est une erreur. Dans mon âge, c'était un honneur d'aller à l'école, d'aller au lycée. On supportait, on subissait. Et je crois que c'est un peu normal. La participation peut intervenir sur certaines choses, mais pas sur les choses prépondérantes. Je crois qu'il faut se plier à une certaine discipline. Parce que dans la vie, de toute façon, on se plie à la discipline. On se plie à la discipline. Ici, j'ai 300 ouvriers sous mes ordres, je suis à la discipline du patron. Et moi, je me plie à la discipline du mien. Alors, il faut aussi les apprendre à être disciplinés. Il ne faut pas que ça tombe dans l'anarchie. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de professeurs, je crois, beaucoup de patrons, qui font de la démagogie. Je crois que c'est une erreur. Quand on est un homme, il faut garder, avoir ses idées, les garder. Elles sont bonnes, elles sont mauvaises, mais il ne faut pas non plus plier aux premières difficultés, absolument pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut remettre en vigueur les verges dans les lycées pour fouetter les enfants, absolument pas ça. Je crois que les lycéens peuvent peut-être avoir voix de consultation, on peut leur demander leur avis, mais ça ne doit pas tellement influer sur la direction du lycée, je pense pas. Donc, à l'université, c'est un peu différent. Là, on a affaire à des gens quand même ayant un peu plus de maturité, on peut peut-être leur demander leur avis, ça peut être important. Mais pas trop.
Vous voyez ça, une forme d'un conseil consultatif.
Un conseil consultatif, mais les décisions étant prises par le corps professoral. Ils connaissent quand même mieux les problèmes. Et puis en fait, il y a toute la vie devant soi.
Oui. Au niveau d'entreprise.
Au niveau d'entreprise, j'ai des délégués du personnel, un comité d'établissement qui envoie également, voie consultative, je les réunis une fois par mois, et ils me posent autant. Et j'estime que on a affaire justement à des gens qui ont une certaine maturité, ce sont des hommes, on peut leur demander leur avis, mais il ne faut pas que ça dégénère. J'estime que moi, ça ne peut pas changer mes objectifs. Et pour atteindre mes objectifs, j'ai des impératifs que je dois respecter. Parce que je pense différemment des ouvriers de l'entreprise ou même des cadres d'entreprise, parce que eux voient un seul ensemble dans leur département et je dois évidemment recueillir tous les éléments et quelquefois agir d'une façon qui leur paraît complètement aberrante, alors que j'ai d'autres informations, j'ai d'autres problèmes qui m'obligent à réagir différemment de ce qu'eux auraient pensé. Mais par contre, il y a l'intéressant, c'est qu'eux ont quelquefois des avis à donner qui sont intéressants parce que ce sont des problèmes que moi je n'avais pas vus. Et c'est là que j'estime que c'est très intéressant.
Des problèmes de quel genre ?
Du problème de travail, des problèmes de matériel, des problèmes d'organisation du travail, enfin, tous les problèmes que l'on peut. Je ne parle pas des problèmes de sécurité du travail, je parle des problèmes d'organisation interne. Et, très souvent, j'ai des avis qui sont très intéressants parce qu'un patron ne peut pas tout voir. Et je crois que c'est là que c'est intéressant. Mais en dernière sorte, c'est quand même lui qui doit décider. C'est lui qui doit décider parce qu'on ne peut pas décider à un échelon inférieur, c'est pas possible. Le pouvoir décisionnel doit se trouver au-dessus justement parce qu'il doit dominer la situation. Et lorsqu'on est, tout en ayant des aptitudes aussi valables que celle du patron, peut-être aussi intelligent et plus fort, comme ça, absolument rien à voir. Seulement, étant placé à un échelon plus bas, on n'a pas une vue d'ensemble, on ne domine pas le problème. Mm-hmm. Je crois que le pouvoir décisionnel doit appartenir à celui qui domine le problème. Vous me direz, si c'est un bon rien, ici, il fait des erreurs, ça tant pis, alors à ce moment-là, il n'y a qu'à l'enlever, en mettre un autre. Enfin, on part du postulat que le patron est capable de donner son affaire. Mais c'est lui qui doit justement prendre ses décisions parce qu'il voit quand même le problème dans son ensemble. Mais il ne faut pas négliger les avis et des suggestions des gens qui sont en dessous de vous, absolument pas. Et très souvent d'ailleurs, ils abordent des problèmes que j'ignore totalement. Toute entreprise, bon, c'est même un tas de choses que je ne vois pas. C'est alors pour ça que les comités d'entreprise ont été établis, c'est pour avoir une relation directe entre les ouvriers et le patron, sans passer par la voie hiérarchique. C'est un court-circuitage qui est admis et qui est très valable. Et ici, je n'ai pas de problème d'ailleurs, aussi au point de vue syndical ou du comité d'entreprise, absolument pas. On réunit vraiment d'une façon très honnête, on expose ses problèmes, et si je leur dis oui, c'est oui, il leur dit non, c'est non, il leur dit quelquefois pourquoi, parce que je ne peux pas. Et on n'a absolument aucun problème. Je crois que, en fait, on a beaucoup parlé de dialogue, on a beaucoup parlé de ça. Ce qui compte, c'est la bonne foi. Dans tous les dialogues, les trois quarts des gens, c'est la mauvaise foi. C'est pour ça que les dialogues ne marchent jamais. Je crois que c'est ça. Les gens sont de mauvaise foi au départ. Ils ont l'impression que leur partenaire, leur adversaire est de mauvaise foi. Le jour où tous les gens seront de bonne foi, ça ira déjà mieux.
Qu'est-ce que vous appelez exactement de mauvaise foi, enfin?
Bien, je crois que les gens ne sont pas de bonne foi et n'exposent pas leurs problèmes comme ils devraient être exposés réellement. Les patrons sont quelquefois de mauvaise foi aussi, ils vous répondent qu'on ne peut pas le faire parce que si, c'est pas vrai, parce qu'ils n'ont pas envie.
Vous croyez que si vous laissiez trop de pouvoir enfin, aux délégués personnels, etc., vous auriez des ennuis du côté de...
De la gestion d'entreprise. Remarquez que moi j'ai organisé la hiérarchie, chacun a les pouvoirs qui correspondent à sa fonction. Mm-hmm. Ils ont toute liberté pour décider dans le cadre de leur fonction. Mm-hmm. Étant entendu qu'il y a un pouvoir coordinateur qui donne des instructions générales, mais je n'interviens pas dans les décisions qui concernent une petite partie de l'entreprise, absolument pas, il y a toujours quelqu'un qui est là pour ça. C'est pour ça que ça se passe assez bien d'ailleurs, je ne me mêle pas de ce qui ne me regarde pas. Le patron, il y a ta chose qui ne me regarde pas, il n'a pas à s'en mêler.
Vous pensez qu'il y a une divergence enfin, de point de vue relativement incompatible, c'est-à-dire que entre celui qui voit l'ensemble du problème enfin, et le personnel qui ne voit que...
Ah oui, il y a une certaine divergence de vue, parce que chacun a ses problèmes particuliers. Hein. Chacun a ses petits problèmes. Alors, ça peut intervenir sur un tas de choses, ça peut intervenir. Non pas pour des revendications personnelles, d'ailleurs, j'ai pas tellement, c'est pas là le problème. Très souvent, c'est un problème d'organisation de l'entreprise que... Chef de sang veut avoir ceci, veut avoir cela, sans s'occuper que si on lui donne ceci, il va gêner les autres. Mm-hmm. D'ailleurs, ce sont là des accrochages. Mm-hmm. Je n'ai pratiquement pas d'accrochage sur revendications personnelles, mais ce sont toujours des gens qui veulent absolument avoir. Un qui veut avoir tout le matériel pour lui, l'autre qui veut avoir ceci, le troisième, le deuxième, autre chose. Mm-hmm. En revendication personnelle, non, il n'y a pas tellement de problèmes de ce côté-là. Alors il y a des améliorations qui sont importantes, quelquefois on a fait pas mal d'améliorations à l'usine, à l'atelier, améliorations de conditions de travail, pour ça je crois que c'est important d'avoir en relation directement avec les intéressés. Parce que très souvent ils m'ont fait des suggestions qui étaient parfaitement valables, mais je ne savais même pas que ça existait. Il y a des... Je ne sais pas quoi, l'autre jour il y avait des pare-flammes par exemple qui n'existaient pas, j'en savais rien. Oui, mais si on faisait un pare-flamme, ça serait quand même, évidemment. Ce sont des suggestions intéressantes. Je crois que c'est un dialogue qui est intéressant, qui est valable. Mais il ne faut pas, maintenant on va avoir la participation. Alors là, je ne sais pas ce que ça va donner, je n'ai pas encore lu le décret. Je pense que ça va être difficile d'application. Il ne faut pas que ça sombre dans l'anarchie. Je crois que dans une société, comme dans toute société, bien. Actuellement, la seule méthode qu'on ait trouvée, c'est la hiérarchisation, parce que l'homme est fait comme ça, il en a besoin. Moi, je veux bien faire une société anarchique, je ne vois pas d'inconvénient, mais qu'est-ce que ça donnera? L'homme n'est pas fait pour ça. À 20 ans, j'étais anarchiste. Bien sûr. Mais actuellement, le système, il y a certainement des améliorations à faire, mais il ne faut pas non plus tomber dans un excès contraire. Alors, il y a la politique qui intervient, la politique, ça, c'est une autre chose. pour moi, n'intervient pas dans le cadre de l'entreprise. Mmh. Absolument. Ça, chacun est libre de ses idées. J'ai peut-être des idées plus révolutionnaires que mes autres.
Ah bon ?
Ça, ça n'intervient absolument pas. Ça, une fois pour toutes, avec les délégués du personnel, on dit ça. Pas de politique d'entreprise, on en veut absolument pas. Ça se passe très bien.
Très bien. Je crois que vous avez quelqu'un qui vous attend.
Oui, j'ai deux personnes.